vous laisse vous installer. Vous nous entendez bien ? Mieux comme ça ? Oui, parfait. Je vous remercie d'avoir choisi notre atelier. C'est un très, très bon choix, alors que la concurrence est rude, d'autant qu'au même moment se déroule un atelier sur le rôle social des bibliothèques. Donc le nôtre est consacré aux attentes sociales des citoyens à l'encontre de leur bibliothèque. Alors je remercie également les élèves conservateurs de l'ENSIB qui sont présents à cette belle brochette d'élèves conservateurs jusqu'à Jean-Baptiste qui est en chair. Monter en chair.
C'était le rêve de ma vie.
Ouais. J'imagine bien. C'est pour ça qu'on passe le concours de l'ENSIB.
Exactement.
Le mot brochette pour les filles n'est pas très joli. Oui, je vous l'accorde, c'est vrai. Oui. Je les remercie tout de même, d'autant plus effectivement que j'ai eu ce mot un peu malheureux. Alors, je vais les remercier doublement d'ailleurs, une première fois pour avoir accepté d'intervenir au congrès de l'ABF et une deuxième fois. Et là, je dois dire que l'effort qu'ils et elles ont fourni est très important pour avoir... accepter cette proposition de l'ABF de réaliser une petite enquête de terrain pour essayer justement de tester la question des attentes sociales des citoyens aujourd'hui en France en ce qui concerne les bibliothèques. Voilà, je sais qu'ils sont en ce moment très occupés par leur scolarité à l'ENSIB et qu'il a fallu faire entrer avec un chausse-pied ce travail de terrain qui était à la fois un travail de terrain mais aussi un travail d'analyse de données et un travail de synthèse de données et qu'ils se sont impliqués grandement de façon tout à fait bénévole. Voilà. Donc, à ma gauche, Isabelle Bastien-Duplex, à ses côtés, Colline Blampin, puis Marie Baudière, Morgane Dessart, alors un peu plus bas, Thierry Fouillet, et beaucoup plus loin, toujours aussi bien en chair, Jean-Baptiste Wessmann. Deux mots peut-être avant de commencer de leur donner la parole, juste pour rappeler un peu dans le droit fil de ce qui a été dit dans l'atelier précédent, mais aussi au cours de la matinée, que les bibliothèques sont décidément des espaces hybrides tout à fait particuliers, des espaces de connaissance, mais également des espaces de reconnaissance. Alors je reprendrai justement une formule utilisée par Serge Pogam dans cet ouvrage qui vient de paraître, dont Livre Hebdo s'est fait l'écho en préparant justement le dossier consacré à l'ABF, des pauvres à la bibliothèque, enquête au centre Pompidou. Donc il rappelle dans cet ouvrage que les bibliothèques effectivement sont des espaces de connaissance et des espaces de reconnaissance, et que par reconnaissance il faut entendre cette notion de protection et cette notion de reconnaissance sociale. La protection, c'est on peut compter sur la bibliothèque pour tout un tas de choses, pour tout un tas de raisons, en ce qui concerne le contexte, hein, en ce qui concerne le lieu, mais en ce qui concerne bien évidemment aussi les collections. Et on peut aussi compter pour à la bibliothèque et donc profiter de cet espace public culturel qui permet aussi une certaine forme de reconnaissance sociale, voire dans certains cas, hein, pour les populations en grande fragilité que Serge Pogam a étudié, un espace de réhabilitation, voire de résistance au stigmate. Alors on s'est posé la question justement en temps de crise aujourd'hui, en temps de crise économique, en temps de crise sociale, crise des valeurs, crise des institutions traditionnelles, comme le rappelait encore une fois Michel Wieworka, quelles attentes, quelles représentations les citoyens peuvent-ils avoir des bibliothèques. On va avoir un aperçu de réponse avec cette enquête qui a été prise en charge par les élèves conservateurs de l'ENSIB. Je leur cède la parole. Jean-Baptiste, pour commencer.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie aussi au nom de mes camarades. Moi, je vais parler de Dream Team, si Christophe Evans me permet, plutôt que de brochette. Ça me paraît mieux. Je vais rajouter au remerciement de Christophe Evans... En mon nom et au nom évidemment de mes camarades, on remercie l'ABF de nous avoir confié ce travail qui a été certes difficile à caser dans notre emploi du temps, mais très intéressant à mener. Et on voudrait aussi remercier la Bibliothèque municipale de Lyon qui nous a permis de venir dans les sections et d'interroger les usagers. Et en particulier, je voudrais saluer Béatrice Palu-Burbeau qui nous a beaucoup aidé au niveau logistique, faire des jolis badges, etc. Donc c'était une aide très précieuse. Et enfin, remercier aussi au passage Christophe Evans qui a bien voulu nous donner ses précieux conseils. On va commencer tout d'abord par voir en fait la méthode. Je vais me charger de vous présenter la méthode, l'échantillon des personnes que nous avons interrogées et mes camarades ensuite, après vous avoir présenté aussi les problèmes qu'on a voulu soulever, mes camarades vous présenteront donc selon les différents axes qu'on a choisis nos résultats. Donc c'était d'emblée, il s'agissait donc de mener une enquête auprès donc d'usagers et de non-usagers. Je reviendrai un peu plus tard sur cette distinction. On a d'emblée choisi de faire une enquête qualitative. On n'avait pas les moyens à nous six, et même si on a bénéficié de l'aide de camarades que je tiens à remercier également ici, on n'avait pas la possibilité de faire une enquête quantitative avec suffisamment de chiffres. Donc on est parti sur une enquête de type micro-trottoir avec des questionnaires donc, sur lesquels je vous expliquerai comment on les a conçus. Et du coup, la représentativité de notre étude, on en est bien conscient, elle n'est pas véritablement sur des bases numériques, des bases statistiques, mais vraiment sur des tentatives qu'on a eues d'équilibrer et d'avoir un échantillon le plus cohérent possible dans le cas, et c'est aussi l'intérêt d'être dans un atelier afin de vous permettre d'échanger en fonction de vos expériences, de vos réactions par rapport à ce qu'on a pu trouver, sachant que donc on a dû, dans un calendrier assez serré, donc vous le voyez, on a mené les entretiens essentiellement sur Lyon, auprès de Lyonnais et Lyonnaises, soit habitants Lyon, soit de passage, puisque vous voyez avec les lieux des enquêtes. Donc on a fait les entretiens sur un mois, entre le 22 avril et le 26 mai, et on a réussi, je vous donnerai le chiffre après, donc à faire 125 entretiens, donc ce qui nous a semblé pas mal, au moins pour avoir quelques tendances, même si effectivement ça ne permet pas de trop longues analyses plus poussées. Donc les lieux des enquêtes, on est allé à trois lieux principaux, pour ce qui est des bibliothèques, puisque nous sommes, c'était quand même l'intérêt d'avoir l'opinion des usagers. On est allé donc principalement à la bibliothèque du Guesclin, qui est une bibliothèque de quartier du 3e arrondissement de Lyon. On a fait ce choix parce qu'on voulait une bibliothèque de quartier qui ne soit pas aussi centrale que celle de la Part-Dieu. Donc et d'ailleurs, on l'a retrouvé dans certaines réactions, des gens qui nous disaient que c'est une bibliothèque à taille humaine, on connaît les gens, on s'y sent bien. Donc ça nous intéressait de voir ce profil d'établissement. On a complété aussi par la médiathèque de Vaise, qui elle était plus excentrée, donc dans le 9e arrondissement, pour ceux qui n'habitent pas Lyon, et qui a en plus une spécialisation autour des arts vivants, arts du spectacle, donc ça nous paraissait aussi intéressant d'interroger d'autres types de publics. Bien évidemment, on est allé à La Part-Dieu, on a erré sur la place de La Part-Dieu à la recherche d'interviewés. Alors on a fait un peu la bibliothèque, mais surtout les abords de la bibliothèque, puisque La Part-Dieu, vous vous en êtes rendu compte sans doute en venant au congrès, est un espace de passage. Donc des abords qui nous permettaient de trouver des non-usagers, des usagers aussi, c'est arrivé, qui eux se rendaient à la bibliothèque, et aussi un lieu qui nous a été très profitable, ça a été la gare SNCF de La Part-Dieu. On peut remercier, je crois, la SNCF au passage, puisque donc dans les salles d'attente, on a pu demander, interroger des voyageurs qui attendaient leur train et donc qui avaient au moins 5-6 minutes pour répondre à nos questions, puisque c'était, j'ai oublié de le préciser, donc je le dis tout de suite, c'était vraiment mini-entretien, comme je vous ai dit, donc 5-6 minutes, vraiment pour avoir les premières réactions des gens, et des fois même on a eu du mal à ce que ça tienne dans cette durée-là, parce que des fois les gens répondaient un peu trop vite, et c'était pas forcément évident de les relancer. Donc comme la commande de la BF était autour des citoyens, cela recouvrait les usagers et les non-usagers. Donc on a interrogé tout le monde, enfin ceux qu'on a trouvés. Les usagers, donc forcément, on les a plutôt trouvés dans les bibliothèques. Là, c'était pour voir en tant que fréquentants. En fait, c'est un peu l'acception qu'on a prise, c'est donc les fréquentants et les non-fréquentants des bibliothèques. C'est un peu comme ça, même si ça a été assez discuté quand on a conçu notre enquête. Donc les usagers qui allaient à la bibliothèque, qui nous disaient ben voilà, j'ai emprunté des livres, je suis allé à des animations, tout ça on y reviendra plus tard. Et les non-usagers qui d'ailleurs des fois pensaient qu'ils s'en sortaient, qu'ils étaient tranquilles, et on leur demandait est-ce que vous allez à la bibliothèque ? Non, non, on leur disait ça tombe bien, on a besoin de votre avis, de non-usagers. Donc eux aussi on les a interrogés, ils avaient des réponses, vous verrez, très intéressantes. Et d'ailleurs, il y a aussi une chose intéressante à voir entre usagers et non-usagers, c'est que des fois, les frontières étaient très floues, parce que vous aviez des usagers qui nous assuraient, donc la main sur le cœur, qu'ils étaient usagers, puis finalement ils n'étaient pas revenus à la bibliothèque depuis longtemps, et puis peut-être que la carte n'était plus valable, enfin je vous en passe les détails, donc se sentaient plus forcément usagers, et des non-usagers à l'inverse, qui pouvaient nous assurer qu'ils étaient usagers, ou qu'ils étaient non usagers, et en fait quand on discutait, c'était en particulier le cas, je vous l'ai dit, on avait des badges, j'ai marqué Bibliothèque municipale de Lyon, et donc certains ont eu tendance à croire qu'on ne s'intéressait qu'aux bibliothèques municipales. Donc ils nous disaient non, je ne fréquente pas de bibliothèque, je ne vais pas à la bibliothèque. Et quand on discutait, mais vous êtes quoi ? Je suis étudiant, je vais à la BU pour mes recherches, etc. Donc on leur disait, donc vous allez quand même dans une bibliothèque, vous savez au moins ce que c'est. Voilà pour les lieux. Alors les seuls chiffres à peu près, je crois, de la présentation, donc c'est la composition de notre échantillon. Donc je vous l'ai dit, 125 entretiens au total qui se décomposent, alors on n'a pas eu 50-50, mais 74 usagers et 51 non-usagers. On vous a réparti aussi par sexe, si vous êtes fort en calcul mental, vous constaterez qu'on a à peu près la parité, puisqu'on a 62 femmes pour 63 hommes. Donc à ce niveau-là, c'est assez représentatif. On ne vous a pas mis les chiffres pour les âges, on a essayé dans la mesure du possible d'avoir à peu près toutes les catégories d'âge, que ce soit des jeunes, des étudiants, des actifs, des retraités et autres. Donc voilà pour les chiffres, pour vous donner une idée. Encore une fois, ce sont des pistes, des choses qui sont remontées. Et en fait, ce qui nous a pas mal servi comme base pour concevoir notre enquête, pour réfléchir à comment on allait interroger ces usagers et ces non-usagers, c'est en fait, on va voyager un peu, une enquête anglo-saxonne qui date donc de décembre 2012, qui a été faite par la Chief Librarian Society, donc l'association des responsables de bibliothèques, qui en fait alors a eu beaucoup plus de temps que nous, donc c'est pour ça qu'elle nous était profitable, puisqu'ils ont travaillé pendant plusieurs années sur quels étaient les grands profils de ce qu'ils appellent les super users, désolé pour l'accent, identifiés. Donc vous avez en fait 5 grands profils qui pour eux sont les 5 grands types d'usagers des bibliothèques. Aussi bien, donc vous le voyez, les career builders, après je ne vous embête plus avec l'anglais, la recherche d'emploi, écriture de CV, préparation aux entretiens, puisque certaines bibliothèques là-bas le proposent. Des personnes qui cherchent des informations sur la santé, que ce soit la leur, celle de leurs proches, ou même des questions de santé plus générales. Les enfants, donc de 5 à 10 ans, alors pas uniquement ce qui est des études, l'aspect scolaire, donc les devoirs, mais aussi découverte du monde, ouverture sur le monde, quelque chose de plus large et de plus global. Un autre aspect, donc des gens qui vont à la bibliothèque pour rencontrer d'autres gens, donc un lieu de vie, un lieu de rencontre. Et enfin, donc des personnes qui font plutôt des recherches généalogiques, donc qui étaient un autre grand type de profil identifié par cette étude. On vous mettra à la fin, il y a le lien vers l'étude si vous souhaitez la consulter ultérieurement. Donc on est parti de ces 5 grands profils, de ces 5 grandes thématiques qu'on a évidemment réadaptées. Et surtout, en fait, avant même de passer à ces thématiques, on a choisi, puisque je vous l'ai dit, c'était des mini-entretiens, il s'agissait de faire ça donc, de façon assez rapide, pour être assez percutant, avec l'autorisation de Christophe Evans, donc nous étions à ce niveau-là couverts, de poser délibérément une question initiale très provocante. Au fond, pour vous aujourd'hui, ça sert encore à quelque chose, une bibliothèque, point d'interrogation. Je vous laisse réfléchir également au passage. Donc, qui était intéressante parce que les usagers souvent se récriaient en disant « bah oui, la bibliothèque, moi je l'utilise, etc. » et on verra ce qu'ils nous en disent. Et c'était intéressant aussi du point de vue des non-usagers qui, du coup, pouvaient avoir des réactions très, là encore, je n'avance pas sur les résultats, mais très contrastées, soit ça ne sert plus à rien, soit si, ça sert encore, et pour telle et telle raison. Et donc ensuite, on a repris les grands profils que je vous ai montrés de l'étude anglo-saxonne, et on les a réorientés sur 5 thématiques, en modifiant quelque peu donc ce qui avait été mis en place, enfin ce qui avait été identifié par nos collègues anglo-saxons. Donc la première thématique, c'était la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire en fait donc recherche d'emploi, information professionnelle, une thématique qui est souvent dans l'air du temps où on parle de la nécessité donc pour les gens de se former tout au long de leur carrière, voire de leurs différentes carrières. On a repris ce thème donc, des enfants et de la découverte du monde. Donc là encore, pas uniquement le scolaire, mais vraiment découvrir son environnement. J'en reviendrai sur la vie citoyenne après, parce que c'est vraiment un ajout qu'on a fait, nous. Les questions de santé, donc toujours pareil, questions de santé personnelle, des proches ou plus globales. Espace de vie, lieu de rencontre, donc là, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, donc des gens qui venaient aux bibliothèques pour rencontrer d'autres gens. Et donc, ce dernier aspect que nous, on a souhaité rajouter, de la vie citoyenne ou de la vie civique, d'une part, évidemment, du fait de la thématique du congrès de l'ABF de cette année, autour de la bibliothèque Fabrique du citoyen, et aussi parce que ça nous semblait intéressant. Alors, ce qu'on a recouvert sous cette appellation, c'était la connaissance de ses droits, la connaissance des démarches à faire, ce genre de choses. On explicitera peut-être plus quand on vous donnera les résultats. Et du coup, donc, on a mené tous nos entretiens et au final, au fur et à mesure qu'on a vu ces entretiens s'amasser, qu'on a commencé à se réunir, à réfléchir sur comment les exploiter, ont émergé en fait trois questions qui vont correspondre aux axes qu'on va vous développer ici. Tout d'abord, comment les citoyens affirment-ils dans leur grande majorité le rôle social fondamental des bibliothèques, qui est donc quelque chose qui est pas mal remonté, que les bibliothèques avaient une utilité sociale. En même temps, dans quelle mesure peinent-ils à énoncer des attentes sociales concrètes vis-à-vis de leurs bibliothèques ? C'est effectivement, on s'est aperçu que ça, là encore, on y reviendra, que ça ne venait pas forcément d'eux-mêmes de proposer des attentes sociales, des choses à mettre en place dans les bibliothèques. Et enfin, c'est un peu une question qui va servir aussi d'ouverture, évidemment, aux échanges avec vous. Quels sont les débats professionnels à déduire donc de cette écoute des citoyens qui viennent ou ne viennent pas dans les bibliothèques ? Du coup, donc, trois axes, je vous le disais, de présentation des résultats. Tout d'abord, on va voir la mission sociale de la bibliothèque qui est largement partagée. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui a rejailli de l'ensemble des entretiens. Comment en même temps cette mission sociale est associée à une image traditionnelle de la bibliothèque. Et là, vous risquez peut-être d'être déçus. Je n'en dis pas plus. Et enfin, et c'est aussi peut-être un motif de déception, le peu d'attentes sociales exprimées par les usagers, du moins, là encore, c'est du fait de notre échantillon que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, pour commencer après cette présentation, sans tarder maintenant les résultats, avec donc tout d'abord cette mission sociale de la bibliothèque largement partagée.
Merci Jean-Baptiste. Donc effectivement, comme on l'a précisé, il n'était pas du tout question de faire, de chiffrer, de faire des statistiques, étant donné le peu d'entretien qu'on avait, mais de dégager des tendances. Et le consensus qui s'est vraiment dégagé, que ce soit au niveau des usagers ou des non-usagers, c'est que la bibliothèque a une mission sociale. Et c'est intéressant de voir que c'est aussi une thématique qui revient souvent dans les débats professionnels, le rôle social des bibliothèques. Et d'ailleurs, il y a en ce moment même une intervention à ce sujet. Donc social au sens pas de qui a trait à la société, mais vraiment au sens de l'implication dans la réduction des inégalités d'accès au savoir et à la culture. Et donc par rapport à ce rôle social, il y a plusieurs thématiques qui reviennent dans les entretiens. Donc la thématique de la gratuité et de l'accès pour tous. Donc là, je vais vous citer quelques exemples de verbatim qu'on a pu avoir. Donc c'est un service public et c'est une grande chance qu'on a de pouvoir avoir accès à la culture comme ça, quasiment gratuit. Enfin, il y a des cartes gratuites, d'ailleurs, pour les plus démunis, et puis il y a des cartes qui sont à des tout petits tarifs pour tout le monde. Et donc cet accès pour tous revient vraiment très régulièrement, notamment pour les enfants. Donc c'est très important pour les usagers, non-usagers, que les enfants puissent avoir accès comme ça à la culture. Ce qui est intéressant également, c'est que cette mission sociale, elle est soutenue par l'ensemble des enquêtés, mais elle ne vient pas forcément spontanément dans la discussion. C'est-à-dire que ce n'est pas quand on demande quel rôle ont les bibliothèques aujourd'hui, ce n'est pas ce qui ressort en premier. Mais si on demande est-ce que la bibliothèque a un rôle social pour vous, tout de suite, c'est oui, bien sûr, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est très accepté. Deuxième élément qui revient par rapport à ce rôle social, c'est l'importance de la bibliothèque à l'heure d'Internet, particulièrement à l'heure d'Internet, puisque, donc là je cite encore une fois, depuis Internet, tout le monde n'a pas accès à Internet, justement. Donc la bibliothèque reste quand même un lieu important. Et un autre usager qui dit qu'en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, on peut ne pas avoir à aller à la bibliothèque. Et pour ceux qui ne peuvent pas ne pas se servir de ce luxe de ne pas y aller, il est important qu'il y ait des accès numériques. Autre élément, c'est une définition en creux, le rôle social. En effet, les usagers ne sauraient pas vraiment expliquer ce que ça recouvre. Par contre, Par contre, ça apparaît, si on pense à l'absence de bibliothèque, c'est là qu'on se rend compte du rôle social qu'elles ont. Donc deux usagères qui discutent entre elles, enfin non-usagères justement, on leur demande si la bibliothèque a un rôle social pour elles. Une qui dit pas spécialement, et sa copine qui lui dit, enfin quand même, imagine qu'il n'y a pas de bibliothèque. Et là on se demande, voilà, que se passerait-il s'il n'y avait pas de bibliothèque? C'est là que le rôle social apparaît un peu en creux en fait finalement, et pas vraiment en une définition claire et précise. Enfin, ce qui nous semble intéressant également, c'est que même les non-usagers sont d'accord sur le fait que la bibliothèque a un rôle social à jouer, même s'ils ne fréquentent pas eux-mêmes la bibliothèque. Donc là, encore une fois, une illustration. Même si on n'y va pas, c'est quand même un lieu qui a un fort aspect citoyen. Donc voilà, je passe la parole à Marie.
Merci. Et cette fonction sociale, en fait, on s'aperçoit qu'elle reste adossée à une image vraiment traditionnelle de la bibliothèque, puisque de la grande majorité des personnes que nous avons interrogées, la bibliothèque, c'est avant tout le livre. Le livre, le support papier, et d'ailleurs dans les occurrences en fait des mots significatifs qui reviennent le plus souvent dans les entretiens, le livre arrive en tête. Pour citer une des personnes interrogées, c'est un grand espace où on peut trouver beaucoup de livres, beaucoup de documents. Et là, c'est un aspect documentaire en fait du livre. Ou encore, non, c'est pas ça, le cœur de la bibliothèque, c'est le livre, c'est même plus, c'est la connaissance des livres, c'est la culture, car le champ des livres, c'est immense. Donc le livre reste primordial dans la vision de la bibliothèque, et il est associé au silence. À ce titre, en fait, on a recueilli dans un des entretiens une citation assez intéressante, où la personne déclare « J'adore les bibliothèques de Lyon, car ce sont peut-être les lieux les plus luxueux qui soient. Ce sont des lieux calmes, et le calme est un luxe. Il n'y a personne dans les bibliothèques de Lyon. Moi, j'ai besoin de calme pour travailler. » Oui, c'est un peu difficile d'entendre ça, mais... « Il n'y a que le mercredi après-midi quand les enfants sont là, sinon elles sont désertées. » Donc, ce constat de l'usager qui est difficile à entendre, témoigne quand même d'une attente qui est faite. On attend un lieu silencieux et calme, un lieu qui est un peu en dehors de la ville, en dehors du monde, et qui est ce qu'on retrouve dans la perception même de ce lieu. Et malgré toutes les nouvelles bibliothèques et leurs architectures contemporaines particulièrement innovantes, les images des lieux, des bibliothèques telles qu'elles sont décrites par les personnes qu'on a interrogées restent une atmosphère calme, sombre, qui va du cocon, comme ici, il y a des endroits plus agréables que la bibliothèque pour lire, mais en même temps, c'est un cocon, au lieu glauque. C'est des endroits pas très illuminés. Au bout d'un moment, tu perds la notion du temps parce qu'il n'y a pas trop de lumière, donc on n'a pas envie d'y rester longtemps. C'est un peu glauque. Donc, cette dernière déclaration est d'ailleurs contradictoire puisqu'on perd la notion du temps, mais on ne veut pas y rester trop longtemps. En tout cas, c'est un lieu qui est retiré du monde. Ça, c'est clairement, clairement associé. C'est un lieu qui va de la lecture cocon au travail individuel au calme. Et cette notion de travail, de lieu du savoir, et particulièrement d'une notion de lieu de savoir fiable. Et c'est quelque chose qui ressort clairement de notre enquête, comme d'ailleurs d'autres enquêtes, notamment l'enquête de l'OCLC de 2010. C'est l'accès aux livres et au savoir vrai, opposé à ce qu'on peut trouver, notamment sur Internet, puisqu'en fait, les personnes qu'on a interrogées sont d'elles-mêmes allées dans la comparaison, pardon, excusez-moi, avec Internet. Je cite, surtout avec Internet, il y a plein de trucs faux. La bibliothèque, c'est là qu'il y a des livres, des documents, mais c'est plus fiable. C'est important qu'on puisse y aller. Et cette mission de délivrer des documents fiables, c'est chelou. Et d'autant plus importante quand il s'agit des enfants ou des adolescents dans une vision d'éducation, notamment pour cette personne qui nous dit « Je pense que c'est indispensable pour les jeunes de collège-lycée de faire de la prévention sur Internet et les réseaux sociaux. Les bibliothèques pourraient faire ça. Quand vous lâchez une info sur Internet, c'est comme une météorite qui tombe sur la Terre. Tous les éclats s'en vont, on ne trouve plus que le noyau. » La bibliothèque, donc, un endroit calme, un endroit du livre, un endroit rempart contre les pièges d'Internet. C'est l'image qu'on trouve de la plupart de nos entretiens.
Je vais juste faire un intermède avec les occurrences de mots qu'on a comptées dans les entretiens. On fait analyser ça par un petit logiciel qui vérifie les singuliers, les singuliers, les pluriels, qui vérifie aussi les négations et le sens aussi dans la phrase. Donc le livre est le mot qui revient le plus souvent, très largement en tête, plus d'une fois par entretien. Ensuite, c'est la famille travail, travailler, je travaille. Ensuite, le mot Internet revient, on va en parler. Ensuite, c'est tout ce qui concerne la gratuité, modique, pas cher, le prix, ne pas acheter ou au contraire, je préfère acheter. Et puis, ce que tu viens de dire, le calme, la tranquillité, pas de bruit, c'est revenu aussi presque 40 fois sur 125 entretiens.
Oui, et donc je rajoute juste un dernier point que j'avais oublié. Cette connaissance, enfin plutôt cette méconnaissance en fait, est exprimée surtout par des non-usagers, mais aussi par des usagers. Elle va jusqu'à la question de la tarification pour l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous ont évoqué qui auraient éventuellement un droit d'entrée si jamais on veut aller à la bibliothèque, pas pour emprunter, mais juste pour rentrer dans la bibliothèque. On nous a même parlé de la tenue vestimentaire à avoir pour pouvoir entrer en bibliothèque. Et parmi les propositions qu'on nous a faites, on a retrouvé des propositions qui existent déjà. On nous a suggéré, par exemple, d'associer le numérique à nos collections. Voilà. Donc je passe la parole à Isabelle pour les attentes sociales.
Donc, en préambule, je vais préciser tout de suite qu'il n'y en a pas clairement exprimé d'attente sociale concrète. En revanche, à l'occasion de nos relances, un certain nombre de points ont vraiment suscité de l'intérêt et donc ont donné lieu à différentes réactions, à des avis. Je vais reprendre donc la typologie que Jean-Baptiste a indiquée tout à l'heure. Pour la vie citoyenne, qui est un des points que nous avons rajouté par rapport à l'enquête anglaise, pas d'intérêt. Éventuellement, on nous a dit que ce serait plutôt du ressort de la mairie. Pour vie citoyenne, débat public, s'informer sur le débat public. Concernant les enfants, là, il y a vraiment un fort consensus. La plupart des gens interrogés s'accordent sur le fait que c'est vraiment utile pour les enfants. Il y a un intérêt, c'est important. Pour les enfants et la découverte du monde. Et puis, ça a été souligné, la dimension par Colline, la dimension sociale a été rappelée, c'est-à-dire l'égalité d'accès, l'accès aux livres et à la culture pour ceux qui n'en disposent pas dans leur milieu familial. Alors concernant la santé, peu de réactions aussi, peu de gens ont répondu avoir aller à la bibliothèque pour s'informer. À l'exception donc d'une personne qui parlait de la bibliothèque du 8e en disant que quand elle a une question, elle va elle a bien identifié les spécialités des différentes bibliothèques de Lyon et quand elle a une question concernant la santé, elle va à la bibliothèque du 8e. Alors, une réponse amusante aussi, oui, pour passer le temps. J'étais malade pendant 5 mois, j'ai lu plus de 20 bouquins. Donc, mais ce n'est pas vraiment une information, une recherche d'informations sur la maladie elle-même. Une réponse que j'ai intitulée « Quand on trouve ce que l'on ne cherchait pas ». Oui, pour une maladie, donc une personne qui va à la bibliothèque pour s'informer. Oui, pour une maladie, pour la protection. Quand tu es intéressé par un livre dans un domaine, tu vas pour ça et tu vois un autre livre qui t'intéresse. Soudain, tu changes directement de domaine quand tu vois un titre vrai qui t'intéresse. Il y a eu peu d'attentes exprimées. En revanche, le domaine du travail, de la vie professionnelle, de la formation tout au long de la vie, ça, ça a vraiment suscité des réactions. C'est comme si on rappelait aux gens tout à coup que, ah bah oui, dans, soit pour se documenter, pour exercer son métier, soit lorsqu'on a préparé des concours, soit lorsqu'on veut faire une lettre de motivation ou rédiger un CV. Voilà, ça a ouvert tout à coup des horizons, des idées. Il faut préciser que spontanément, une personne seulement sur 120 a déclaré avoir eu accès à être allée à la bibliothèque pour rédiger un CV. Une lettre de motivation. Oui, une fois, j'avais un problème. Comment j'écris une lettre de motivation? Bon, j'ai cherché là-bas, j'ai emprunté un livre et il m'a bien aidée pour l'écrire. La préparation de concours aussi. Je suis juriste de formation. À la part Dieu, il y a des périodiques de droit. Cela peut servir à combler certains besoins. Il y a aussi le coin prépa concours. Pour passer un concours, ça m'a aidée. Les annales, les programmes, les livres, les périodiques, ils ont tout. On peut préparer un concours avec la bibliothèque. Donc un monsieur qui a 60 ans. Un autre, pour la formation, oui, je me suis offert une formation à un moment, mais j'ai abandonné parce que c'était trop cher. Mais je continue avec la bibliothèque, toute seule. C'est une femme de 45 ans environ. Donc là, il y a un vrai usage social. Donc pour d'autres réponses plus contrastées, alors certains, une partie assez... Une part des répondants ont déclaré que non, puisqu'il y avait sur Internet, on trouvait ce qu'on cherchait sur Internet. Oui, mais c'est quand même plus fiable à la bibliothèque, parce qu'en fait, Internet, c'est un peu le... C'est un peu le fast-food de la culture. Alors, certains ne savaient pas qu'on pouvait avoir recours à la bibliothèque, mais ça les intéresse. Donc, il y a des réponses assez contrastées. Oui, je l'utilise. Non, non, je ne savais pas, mais ça m'intéresse. Et puis d'autres, je ne savais pas, mais je trouve que ce n'est pas du tout le rôle de la bibliothèque. Donc je ne savais pas, mais ça m'intéresse. Pour le moment, je ne pense pas qu'elle ait cette fonction, mais ça pourrait être une super fonction. Qu'elle ait un rôle de ressource pour tout ce qui est de l'écrit. Et maintenant reviennent les écrivains publics, et on est dans un monde de l'écrit partout. Donc pour les personnes qui n'ont pas accès à ce monde, ça pourrait être une fonction qui pourrait les aider. Actuellement, ce n'est pas le cas, mais je me vois pas aller à la bibliothèque et dire que j'ai un CV à rédiger. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, actuellement, elle ne le voit pas, mais ça pourrait être un développement. Donc là, ça rejoint la méconnaissance aussi qu'ont un certain nombre de personnes de ce qui est proposé. Alors pour les langues, par contre, l'apprentissage des langues, ça c'est quelque chose qui là aussi a vraiment une part des personnes interrogées déclarent emprunter des langues, regrettent d'ailleurs que le temps soit trop court parce que en 3 semaines, on n'a pas le temps, il faut les rendre, enfin, c'est un peu court. Mais en tout cas, ça intéresse fortement. Et certains déplorent d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'atelier de conversation, qu'il faille aller. Il y en a un, par exemple, qui a trouvé un bar dans Lyon qui a l'air spécialisé dans la rencontre d'étrangers et de Français. Pour pratiquer la langue. Alors, pour ce qui est des ateliers pratiques, donc qu'on peut considérer aussi comme de la formation. Là aussi, c'est assez contrasté. Enfin, globalement, quand même, pour tout ce qui est activité, rencontre, débat, animation, soit ils considèrent que non, la bibliothèque, ça doit être silencieux, ou alors ils disent oui, mais il faut qu'il y ait des lieux séparés, comme s'ils envisageaient que ça puisse faire de manière, enfin, qu'il puisse y avoir une cohabitation. Et là encore, il y a une méconnaissance quand même, parce que dans les bibliothèques lyonnaises, il y a une activité culturelle proposée qui est vraiment importante. Donc pour les ateliers pratiques, et ça rejoint aussi le lieu, la bibliothèque en tant que lieu de rencontre, lieu de vie sociale. Donc là aussi, ça a suscité de l'intérêt. Par exemple, pour la cuisine, tout ce qui tourne autour de la cuisine dans la semaine, à l'occasion de la semaine du goût. C'est vraiment, donc la bibliothèque, rôle social, c'est vraiment un lieu social. Ils mettent en place des événements. Par exemple, pour la semaine du goût, ils mettent des ateliers de cuisine en place, des présentations des cuisines du monde. On peut y faire des rencontres, c'est chouette. Donc voilà, à l'occasion d'ateliers, on apprend des choses et en même temps, on peut faire des rencontres. Mais par ailleurs, bon, ça ne me paraît pas naturel dans ma conception d'une bibliothèque qui reste quand même le lieu d'accès à toute information, toute documentation, à l'art, à des activités artistiques, car c'est un lieu un peu protégé, un peu sacré pour moi. Voilà, donc avis contrasté concernant les ateliers. C'est la même chose pour la bibliothèque, lieu de vie sociale, rencontre. Donc, troisième bibliothèque, troisième lieu. On dit que bon, c'est un lieu où on retrouve d'autres lecteurs, mais même si c'est un lieu de rencontre, on n'échange pas forcément, juste quelques mots, des sourires, ou alors dans le rayon policier. Un autre lecteur peut nous donner des conseils. Donc, pour la bibliothèque, c'est un peu ma deuxième maison. En plus, je suis célibataire, je peux rencontrer des jeunes femmes qui travaillent là-bas aussi. J'aimerais bien un petit espace où rencontrer des gens, partager, échanger des opinions. Les bibliothèques pour faire des rencontres. À la médiathèque, grand éclat de rire, pas trop, non. Donc voilà, et puis d'autres parlent par exemple de Beaubourg en disant oui, dans la file d'attente, on fume une cigarette et puis on discute et puis on fait connaissance. Mais dans les bibliothèques à taille humaine, c'est pas trop. Voilà, alors il y a à la fin, lorsque Thierry présentera la bibliographie, il va parler du rôle des bibliothèques dans l'insertion professionnelle. Et je laisse la parole à Morgane.
Vous m'entendez bien ? Non, là c'est mieux. Alors, donc nous, dans nos, moi, mon rôle là, c'est d'essayer d'ouvrir le débat. On a pu repérer dans ces entretiens plusieurs points saillants qui nous ont interpellés, qui nous ont parfois choqués, parce qu'ils étaient souvent quand même en contradiction avec certains de nos débats professionnels actuels. Marie nous a notamment parlé de l'importance du calme pour nos interviewés dans les bibliothèques. Là, je vais juste rappeler une citation qui est intéressante. où un non-usager nous expliquait donc que la bibliothèque était, je cite, « un des seuls lieux qui ne soit pas ludique et qui soit dédié à la réflexion profonde. Ce n'est pas une activité que proposerait Carrefour ou Leclerc comme ce serait une dédicace. » Alors nous, ingénument, pour contrer cette vision de la bibliothèque lieu monastique, on a essayé de proposer notamment d'évoquer l'existence du jeu vidéo en bibliothèque. Et là, les réactions étaient très intéressantes parce qu'elles étaient souvent, c'était souvent perçu de manière hostile et souvent par des non-usagers. Donc, quelqu'un nous répond « Ah non, non, il y a des centres pour ça. » Un autre nous dit « Ah, moi, ce que j'ai, pour moi, ça, je n'aime pas. Tu sais, c'est un peu comme si on cachait une pilule de culture dans un brownie. Tu es content d'avoir mangé le brownie, t'as avalé un peu de culture, mais bon. » Voilà. Alors, mais bon. Alors nous, on se demande, avec ce débat sur le troisième lieu, qui est vraiment prégnant actuellement, sur ces grandes bibliothèques construites sous forme de plateaux, ouverts, sur donc, cette intégration du jeu vidéo dans nos politiques documentaires, est-ce qu'on n'est pas totalement en contradiction avec nos usagers, avec nos citoyens? C'est une question que nous posons. Car, en effet, certains des interviewés craignent vraiment de voir la bibliothèque perdre son âme dans la multiplication des ateliers, des animations et des missions qu'elle se donne. Lorsqu'on a évoqué à l'un des interviewés le rôle de la bibliothèque dans la vie citoyenne, celui-là a répondu « Ah non, chacun son métier ». Tandis que, alors qu'on a réussi à trouver une bibliothécaire québécoise en visite à Lyon, qui est allée faire un tour dans une bibliothèque de quartier dans le 3e arrondissement, on lui a évoqué l'utilité pour les bibliothèques d'avoir un pôle santé ou de parler d'aider à la documentation sur la santé pour nos usagers. Celle-ci a répondu que c'était trop dangereux d'élargir nos compétences car, je la cite, « on a déjà suffisamment à faire avec la culture, promouvoir, etc. » Alors, un autre point sur lequel on aimerait insister, c'est un point qui va faire mal, pardon. Nos sondés ont souvent insisté sur la faiblesse du bibliothécaire comme médiateur. Le fait que les bibliothécaires soient de mauvais médiateurs ou que ce soit même, enfin, c'était même parfois présenté comme une nouveauté, une proposition d'amélioration de nos services. Pour moi, les bibliothécaires, dit un non-usager, j'ai plutôt l'image qu'elles prennent les références du livre, qu'elles nous indiquent qu'il faut le rendre dans 3 semaines. C'est vraiment un rôle très administratif. D'autres réclament des bibliothécaires sympas, bon ça c'est un classique, avec qui on peut échanger, qui conseillent, qui nous orientent. Un autre encore, et là ça va faire mal, souhaiterait trouver dans une bibliothèque des gens qui pourraient approfondir une réflexion pour échanger davantage, mais il a bien conscience que ça demanderait d'avoir des gens d'une culture immense. Voilà. Et voilà. Donc, lorsqu'en nous proposant ces images de la bibliothèque bastion d'un bibliothécaire retranché derrière sa banque de prêt, nous avons essayé d'encourager nos sondés à proposer des prospectives, des améliorations. Et si les bibliothécaires doivent être plus sympas, quelles propositions devrait-on avoir en bibliothèque pour être plus efficace, pour répondre vraiment à leur attente sociale? Et en réalité, je vais vous en présenter quelques-unes, mais nous n'avons pas trouvé d'idées réellement innovantes dans nos 120 enquêtes. On a tout de même essayé de dégager quelques idées fortes. Par exemple, il s'agit d'essayer d'ouvrir d'ouvrir la bibliothèque à la société civile de manière plus large. Une sondée nous enjoint à faire des partenariats, et là je la cite, mais pas que avec l'école, par exemple avec de grosses entreprises. Et cette ouverture se caractériserait aussi par plus de bibliothèques hors les murs, avec, je la cite toujours, des sorties dans la ville, pour que la bibliothèque cesse, entre guillemets, d'être un lieu mort. Un autre nous encourage à faire, comme sur marmiton.org, où on trouve tous les avis des clients. La même chose en bibliothèque, ce serait sympa. La cuisine, Isabelle l'a un peu évoquée, a d'ailleurs beaucoup inspiré nos sondés, qui nous en ont souvent parlé, peut-être à cause de la semaine du goût, peut-être aussi parce que c'est un phénomène qui ne laisse plus indifférent, qui ne laisse pas indifférent. Donc certains souhaitent la tenue d'ateliers de type réunion sur la cuisine avec des livres de cuisine, quand d'autres proposent même des ateliers nutrition ou ce genre de choses. Mais voilà les propositions fortes, il y en a aussi dans le domaine de l'informatique, mais elles recouvrent tout le temps la même chose, et je pense que vous serez d'accord avec nous. Pour la plupart, il n'y a rien de neuf sous le soleil. La plupart des propositions données sont des choses qui existent déjà, sauf peut-être le coût des grosses entreprises. Et en fait, cette offre en général que nous proposons avait l'air d'être vraiment tout à fait méconnue de nos sondés. Et c'est finalement sur cette dernière remarque que nous aimerions conclure notre présentation. L'offre en bibliothèque, qu'elle touche la documentation ou l'action culturelle, est très peu connue. On l'a plusieurs fois pointée. Certains même des sondés, en général des non-usagers, s'inquiètent d'ailleurs de l'inexistence des bibliothèques dans les médias locaux. Alors je cite, « J'ai jamais eu d'informations sur la bibliothèque dans le journal de la ville ou le 20 minutes qui aurait fait tilt. » Tandis qu'un autre s'étonne de cette situation, de n'avoir jamais entendu parler de la bibliothèque à la radio. Il parle de publicité à la radio. Et c'est finalement ce qui nous a réellement sauté aux yeux et préoccupé à la lecture de cette enquête. Comment avoir, en se plaçant du point de vue des sondés, comment avoir des attentes sociales auprès d'un objet dont on ne connaît rien ou qu'on connaît très peu ? Et cette enquête a été faite à Lyon, dans une ville et même dans une région où la lecture publique est prolifique, où il y a vraiment de la proposition innovante et intéressante pour les usagers. Et pourtant, les citoyens ignorent en grande majorité ce qui s'y passe. Donc, nous sommes tous convaincus, nous six, que la communication, thème du congrès ABF il y a 2 ans, est une des voies de sortie de cette situation. Mais là encore, il faudra faire attention parce que nous, quand nous arriverons à faire de la communication à la radio, nous susciterons des besoins ou des envies là où nous avons de nouveau uniquement fait que supposer des attentes. Voilà, donc le débat est ouvert. Thierry.
Tu veux que je présente la bibliothèque maintenant ? Où on peut débattre avant, peut-être, tant que c'est chaud. Ah oui, sur l'insertion professionnelle. Sur l'insertion professionnelle, il y a un travail intéressant qui a été fait par un élève conservateur en 2011. C'est Johan Bourion. Ça se trouve sur le site de l'ENSIB, dans la bibliothèque numérique. Et c'est un document très pratique à lire, qui est donc consacré au rôle des bibliothèques dans l'insertion professionnelle. Et qui part du constat qu'il y a une grande méconnaissance entre les acteurs de l'insertion professionnelle et les bibliothèques. Une méconnaissance mutuelle. Les bibliothèques, on leur reconnaît un fonds documentaire à jour, une capacité à accompagner le public, une capacité à desservir tous les publics. Là-dessus, on est d'accord. Mais dans le domaine économique ou dans le domaine de l'emploi, non. Alors, évidemment... des expériences existent à l'étranger, en France aussi, dans de nombreuses bibliothèques ou villes. Des services d'aide à l'insertion sont développés, que ce soit par les bibliothécaires d'ailleurs, avec leurs propres moyens et leurs propres connaissances, ou par l'embauche de personnel plus spécialisé. Il y a les deux cas de figure. Et donc, finalement, on reconnaît... Johan Bourion conclut que c'est du rôle social de la bibliothèque d'accompagner, évidemment, à la formation tout au long de la vie et à l'insertion professionnelle, en particulier les jeunes. Et il décline en conclusion cinq étapes. Analyser le contexte local de sa commune, évidemment. Il ne s'agit pas de réinventer quelque chose qui existe déjà. Mettre en valeur le fonds documentaire, quand il n'est pas connu. Se servir de son site web, insister sur la fonction d'accueil à la bibliothèque, d'accompagnement des usagers, ce qu'on sait faire mais qu'on n'explique pas forcément en termes de communication. Et puis, voilà. Donc, Johan Bourion. Sinon, vous pouvez lire le travail aussi de Fabrice Chambon. Là, la référence est affichée à l'écran. Lectures et lecteurs à l'ère d'Internet sous la direction de Christophe Evans. En 2005, les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet, ce qui est dit dans l'enquête de Bruno Maresca avec Christophe Evans et Françoise Godet, on l'a retrouvé nous, dans cette enquête. Donc l'enquête de Maresca, c'est 2005, nous on est en 2013, mais le tuilage entre les capacités documentaires d'Internet et la fiabilité des informations en bibliothèque, il est à peu près le même. Voilà. Sinon, les entretiens, ça constitue un petit volume comme ça, pour vous donner une idée, qui serait, je pense, qu'on mettra à disposition de tout le monde par le site de l'école.
Vous
Vous avez peut-être des questions ou vous avez peut-être envie d'intervenir sur ce qui a été évoqué. Il s'agit bien d'une enquête exploratoire, hein, donc qui mériterait évidemment des approfondissements et notamment peut-être d'autres enquêtes représentatives. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des... Oui.
Juste une question. En particulier lorsque l'enquête a été...
Attendez.
Vous voulez que je le fasse ?
Donc, juste une question. Lorsque l'enquête a été réalisée dans les environs de la bibliothèque de la Part-Dieu, et je pense notamment à la gare, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des usagers ou des non-usagers, mais plutôt des usagers d'autres bibliothèques que celle de la Part-Dieu ou de celle de la ville de Lyon ? C'est un lieu de passage très important, donc je serais étonné d'une part que vous n'ayez pas rencontré d'autres personnes que celles qui fréquentent les bibliothèques de Lyon. Et si c'est le cas, si vous en avez rencontré, est-ce que vous les avez éliminés de votre enquête, de votre panel ?
Oui, quelqu'un parlait de la BPI, et puis on ne demandait pas forcément non plus quelle bibliothèque il fréquentait.
Il y en a eu beaucoup qui fréquentaient d'autres bibliothèques, ils nous le disaient spontanément souvent, soit à la campagne, soit dans d'autres villes, soit dans l'agglomération, soit à l'étranger. Et on ne les a pas éliminés.
Notre objectif, c'était vraiment d'avoir eu un panel d'usagers. On a pris Lyon parce que nous sommes sur Lyon et qu'on était vraiment contraints. On était plutôt contents d'avoir justement des usagers... au Canois, on a eu de Lens-le-Saunier, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'était plutôt utile, et finalement, ça se recoupait. Hein, on n'a pas eu la sensation d'avoir... à part quand c'était des usagers étrangers, pour le coup, là, vraiment. On avait une personne d'Algérie.
Algérie, Suisse.
De Suisse, de Belgique. Suisse et Belgique, c'était assez... Mais c'était vraiment l'Algérie, où c'était assez différent, parce que on n'a pas le même niveau de... Enfin, c'est pas les mêmes types de bibliothèques. Voilà.
On l'a mis aussi dans le... d'autres éclairages par rapport à d'autres offres, y compris notre collègue québécoise qui était de passage et qui elle avait un discours très lié à sa vision de la profession au Québec.
Moi je veux bien lancer un peu le débat en fait. Si je résume un petit peu les trois axes sur lesquels enfin, vous nous avez énoncé tout à l'heure, est-ce qu'on doit comprendre comme ça de manière un petit peu globale qu'en fait les usagers n'ont plus rien à attendre d'un modèle qu'ils considèrent comme étant complètement dépassé ? Ah oui, une vision traditionnelle de la bibliothèque et puis derrière pas d'attente.
Oui.
Voilà, ils n'ont plus rien à attendre de nous, quoi.
Moi, je l'ai vu, ça, pour les seniors. Il y a vraiment un problème avec les seniors. Ils sont restés sur une vision de la bibliothèque d'avant-guerre, en fait, que ce soit vécu ou imaginaire. Hein, je ne sais pas, mais c'est vraiment net, quoi. Je ne sais pas ce qu'on a fait avec les seniors depuis les années 70, mais ils n'ont pas vu tous les changements. Enfin, bon, peut-être pas généralisé à tous. Hein, il y a eu aussi des témoignages très contemporains, très, très conscients, mais moi, ça m'a frappé en lisant tout l'ensemble hier soir. Et puis, oui, ce que tu dis, ça, c'est une manière d'interpréter les choses, je pense. Oui.
Oui, puis en fait, c'est ce qu'on disait un petit peu dans le premier point, c'est-à-dire que d'une part, c'est vrai que les attentes concrètes ont été difficiles à extraire des entretiens, même quand on était sur place, quand on demandait de basculer dans quelque chose de plus concret. C'était très délicat, en fait. Par contre, il y a une grande affirmation de l'importance de la bibliothèque. Et ça, il y a très peu d'entretiens où il est ressorti que la bibliothèque n'avait plus sa place aujourd'hui. Mais c'est assez difficile, notamment chez les non-usagers. Il y a eu vraiment une grande affirmation de l'importance de la bibliothèque, mais sans l'associer à des attentes concrètes. Vous vouliez...
Oui, Christophe Alvides, Mediadis, je voudrais rebondir sur la question salutairement provocatrice, parce que c'est quelque chose que je voudrais que vous explicitiez sur les réponses des usagers et des non-usagers. C'est-à-dire qu'on comprenne, on comprend parfaitement que les usagers aient une vision totalement sacralisée et traditionnelle de la bibliothèque, puisqu'ils n'en sont pas usagers. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est si on trouve ça aussi chez les usagers, ce qui serait à la limite plus inquiétant. C'est-à-dire que, est-ce que ça, c'est un constat partagé des usagers et des non-usagers, ou est-ce que c'est vraiment le propre des non-usagers ?
Oui. Non, c'est vraiment spécifique aux non-usagers, ça vous avez raison.
Enfin, avec des exceptions, c'est-à-dire que quand même, par exemple, le lieu de luxe calme où il n'y a personne qui est désert, c'est un usager. C'est un usager qui recherche ça et qui est très heureux de le trouver. Donc en fait, il n'y a pas eu de tendance très claire, usager, non-usager. Nous-mêmes, ça nous a un peu surpris, on s'attendait à des visions opposées. Ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est sûr qu'on va de l'usager qui a une meilleure connaissance en fait, de réellement ce qu'est une bibliothèque aujourd'hui et qui du coup va avoir une vision un peu différente de quelqu'un qui ne connaît pas concrètement les bibliothèques.
Alors sur le silence, tu as raison. Et sur le, j'avais remarqué quelque chose moi de spécifique aux usagers par rapport aux non-usagers, c'est qu'ils ne clivent pas l'offre de loisirs et l'offre du travail en gros, ou de paraprofessionnel. Ils ont vraiment intégré, et plusieurs le disent, j'ai fréquenté pour préparer le concours et maintenant je ne fréquente plus pour lire la littérature. Mais je sais qu'il y a les deux dans la bibliothèque. Donc les usagers ont compris, je pense, l'amplitude de l'offre. Sur le silence, c'est vrai que ça reste très traditionnel. Sur la gratuité de l'offre de la programmation culturelle, c'est revenu de la part des usagers. Et sur l'insertion professionnelle, il y avait un beau témoignage. Mais quand tu cherches du travail, tu vas direct à Pôle emploi. Mais à la bibliothèque, tu peux trouver des gens qui te donnent envie de toujours continuer à aller vers ton but, à continuer ton chemin. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement trouver l'annonce idéale, c'est trouver l'accompagnement vers. Donc je pense qu'on va quand même finement vers le cœur de métier avec les usagers. Ce n'est pas si catastrophique
que ça. Et puis
il y a
une différence aussi entre les usagers d'une petite bibliothèque qui ne connaissent pas du tout l'offre de, par exemple, la Part-Dieu. Et du coup, n'imaginent pas un débat en bibliothèque parce qu'ils l'imaginent juste là à côté, dans cet espace-là. Et ils ne se représentent pas d'autres organisations spatiales et, voilà. Et ils ne connaissent pas l'offre de la Part-Dieu.
Oui, moi je voudrais poser une question par rapport à quelque chose qui m'étonne beaucoup. Par rapport au thème que vous avez évoqué, la vie quotidienne, la formation, les cinq thèmes, il n'y a pas de place au loisir au départ. Ça a été abordé sous la forme d'une personne qui fait référence au roman policier, et vous venez de l'aborder très brièvement. Mais à aucun moment, je veux dire, moi je travaille dans une bibliothèque municipale, oui. On sait que c'est 60%, 70% de nos prêts, oui. Que les gens y viennent aussi pour Marc Lévy et Musso, etc., et ça n'apparaît pas. Est-ce que c'est parce que c'était pas dans votre champ de recherche, ou est-ce que vous l'avez carrément oublié ? C'est un peu provocateur, mais est-ce que vous l'avez oublié ?
En fait, comme le thème, c'est les attentes sociales, on a un peu recontextualisé par rapport à l'ambiance de crise, par rapport aux disparités, etc. Et on s'est basé donc, au départ sur l'enquête de la Chief Library qu'on a présentée en introduction et qui ne donne pas cet élément de les loisirs, qui ne le recense pas. Et donc effectivement, on est parti sur les attentes sociales au sens vraiment... social du terme, et donc on a exclu les loisirs, mais c'est revenu assez souvent dans nos entretiens au fil de la discussion, mais effectivement on n'a pas posé la question sciemment, mais ceci dit c'est revenu quand même assez fréquemment.
C'est l'usage classique de base. Pratiquement, ce qu'on interrogeait, c'est qu'est-ce qui sort de cet usage-là, de loisirs, de divertissement.
Moi, je voulais juste reprendre quelques points que vous avez donnés. Alors, la communication, quand on a fait le congrès ABF sur la communication, je ne sais pas s'il y a Dominique Larry et Pascal Wagner là, mais nous, on a travaillé beaucoup sur le bureau ABF sur comment on pouvait faire une campagne de communication sur les bibliothèques, comme en Allemagne. L'Allemagne a été très forte sur ça, et tout citoyen sait les activités de la bibliothèque, voilà, en général. Donc nous, ça, on n'est pas encore très bon, donc on a essayé avec la direction du livre, etc. C'est sûrement un chantier qui est par là, mais effectivement, c'est extrêmement important. Quand on vous dites, on est très étonné, les usagers ou les non-usagers, ou moins les usagers, ont peu d'attentes. J'ai tendance à dire, est-ce que c'est pas notre faute qu'ils n'ont pas d'attentes ? Parce qu'on a tellement, on s'est tellement posé comme des experts que est-ce qu'on a donné la place à des gens ? Je pense que ça a été de la modestie. Ils savent faire, c'est eux les experts, alors... Est-ce qu'on en attend quelque chose ? C'est eux qui savent, pas nous. Je crois que là, on peut réfléchir sérieusement comment on a abordé le citoyen à la bibliothèque. Je dis ça parce que nous, enfin, je suis responsable d'une bibliothèque qui s'est ouverte au Mirail, à Toulouse, donc dans un quartier en zone sécurité prioritaire. Et on a de suite réfléchi à comment serait l'accueil. Et on a beaucoup accompagné le lecteur. Et j'ai été extrêmement étonnée, même si je savais que ça allait arriver, j'ai été extrêmement étonnée le nombre de parents, d'adultes qui nous ont dit « mais je ne vais pas m'inscrire, la bibliothèque, je viens pour mes enfants ». Il a fallu dire « mais la bibliothèque, etc. ». Après, on s'est aperçu, on a eu l'automate de prêt, super. Et là, on savait qu'il fallait accompagner, mais on ne savait pas qu'il fallait accompagner jusqu'à... On a eu des gens, on a actuellement des usagers, alors je vais dire, on a actuellement des lecteurs qui ne savent pas lire. J'emploie exprès le mot lecteur parce qu'en fait c'est des usagers dont l'emprunteur de DVD et de CD emprunte sur l'automate par rapport à un visuel et pas par rapport à ce qu'il y a écrit. Mettez la carte là, le code de barre dans ce sens là, prêt, retour, prenez votre ticket, beaucoup d'informations. Heureusement qu'il y a un visuel et qu'il y a un accompagnement. Donc effectivement, alors si vous leur demandez l'attente, je ne suis pas sûre qu'ils seront dire quoi que ce soit. Et après, la notion de calme. Donc effectivement, nous on a beaucoup de gens qui nous disent, vous êtes, c'est bien, vous êtes ouvert le samedi et le dimanche, mais alors le dimanche, c'est le foutoir. Il y a trop de monde, etc. Et nous on leur répond, mais venez un autre jour. Il y a des moments où c'est très creux. Voilà. Peut-être au moment donné, où l'usager, il ne faut pas qu'il vienne le samedi et le dimanche s'il cherche le calme. La bibliothèque peut avoir deux usages, les usagers qui ont besoin de calme et les usagers qui n'ont que le dimanche pour venir à la bibliothèque. Ce n'est pas les mêmes, effectivement. Après, moi je me disais, comment on arrive à mettre l'usager citoyen ? On a essayé le conseil d'usager, on a essayé les animations. Quand dans un quartier, il n'y a rien et que la population ne s'est pas appropriée s'approprier la bibliothèque que par les documents, le prêt et le retour, mettre autre chose, c'est très compliqué. Est-ce qu'ils en ont besoin ou pas ? Est-ce que ça fait plaisir à la bibliothécaire d'avoir sur son beau catalogue, j'invite tel lecteur, tel écrivain, je fais telle expo ? On est très content, on fait de l'animation. Et quand on regarde la fréquentation, si on est honnête, des fois on y a passé beaucoup de temps pour peu de... entre guillemets, de rentabilité. Voilà. Et donc, moi, je finirai par ce... Je crois que c'est Marie qui l'a dit, ou Morgane, je ne sais plus, et par rapport au flyer, là, enfin, au petit signé. Je crois essentiel l'accueil du public. Je crois qu'il faut avoir une posture et pas se dire, la personne qui a passé la porte, c'est tout comment ça se passe. C'est-à-dire, la Diwe... on aura beau mettre un fond professionnel, si on ne dit pas qu'on est là aussi pour aider et pour accompagner, parce que donner un livre sur l'aide de motivation, excusez-moi, ça ne suffit pas. Je pense que ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Et peut-être de dire que dans l'atelier multimédia, on peut aider à faire un CV s'il n'y a rien, ce qu'a dit tout à l'heure. Regardons ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on aide au CV ? Alors là, la question c'est, est-ce que je suis la bibliothécaire ? Est-ce que ce métier, je l'ai choisi pour ça ? Parce que là, effectivement, Je ne sais pas si on demande de l'intelligence, mais je crois qu'on nous demande une autre intelligence, qui n'est pas nécessairement des connaissances de tout Balzac, tout Zola, de la littérature, je ne sais pas quoi, etc., etc. Mais peut-être des connaissances dans l'humain et dans l'empathie de l'usager ou du non-usager.
Moi, j'ai eu une remarque d'une dame retraitée qui disait « Mais moi, ça fait 5 ans que je viens, je prends des livres, je les rends, on ne m'a jamais demandé ce que j'en pensais. »
Alors, basique. Moi, vous avez parlé de médiation tout à l'heure et du rôle du bibliothécaire en tant que médiateur. Alors moi, je voudrais juste faire une remarque, c'est par rapport au recrutement dans les bibliothèques, aux gens qui travaillent dans les bibliothèques. Est-ce que ce sont des gens qui lisent ? Est-ce que ce sont des gens qui sont capables de parler de livres, puisque là, on parlait de livres ? Est-ce que quand on fait un entretien de recrutement, on demande aux gens les derniers livres qu'ils ont lus ? Est-ce que, voilà, pour être médiateur, il faut déjà lire ? C'est une première chose. Il y a beaucoup de gens dans les bibliothèques qui ne lisent rien du tout et qui sont au service public. Bon. Deuxième chose, sur le calme, je me dis mais que tout le monde a le droit à sa bibliothèque. On a dit tout à l'heure qu'il y avait autant d'usagers que d'usages. Si les gens recherchent, je ne vois pas ce que ça a de rétrograde ou de avant-guerre que de demander le calme dans une bibliothèque. Je pense qu'il faut les lecteurs, comme vous dites, madame, ceux qui ont besoin de rencontres, d'animation et que le bruit ne gêne pas, mais il faut aussi pouvoir respecter les lecteurs qui viennent choisir leurs ouvrages, faire leur choix de livres dans un certain calme. Et la bibliothèque est aussi l'apprentissage des publics les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que c'est un lieu social en ce sens-là, qui confronte différents âges de la population. Donc, des ados avec des personnes âgées, avec des enfants, etc. Ça a toujours été ça. Donc, ça, il faut accepter aussi. Ce n'est pas l'image très rétrograde de la bibliothèque silencieuse et austère avec la bibliothèque, parce que les écrans peuvent être très austères aussi, sans être... Et puis, la dernière chose, pour ne pas être trop longue, que je voulais faire comme remarque, c'est par rapport à, justement, la recherche, la prolongation de notre rôle par rapport à l'accompagnement, la recherche documentaire, l'accompagnement des jeunes lecteurs, etc. Je pense qu'on a un rôle qu'on ne joue pas actuellement, qui serait peut-être, les usagers de votre enquête disent, la fiabilité des livres par rapport à l'Internet qui est un fast-food de l'information. Bon, ben justement, accompagnons-les dans ce fast-food, quoi, et aidons-les à faire des choix, à trier les informations, à connaître la fiabilité des sites. Je crois qu'on a un rôle énorme à jouer à ce stade-là qu'on ne joue pas encore. Voilà.
Juste pour répondre sur le calme, en fait, peut-être qu'il y a on s'est peut-être un peu mal exprimé. L'idée n'était pas du tout de juger ces attentes-là, que ça soit le calme, les livres aussi, puis c'était dans la même partie, comme étant des attentes rétrogrades. C'était juste de montrer que l'image, en fait, c'était pas sur le fait de demander du calme, c'était sur le fait que c'était considéré uniquement sous l'angle d'un lieu silencieux, où le silence est roi uniquement. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée était, pour eux, il était inenvisageable que dans une bibliothèque. Voilà, c'est pour ça, en fait, qu'on a classé ça du côté d'une image traditionnelle de la bibliothèque, mais loin de nous l'idée d'imposer assez... à ces personnes, voilà.
On sait faire maintenant des bibliothèques zonées. C'est pas un joli mot, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Avec une zone chaude, une zone froide, des endroits où on peut travailler. Soit ça dépend des lieux et de la configuration, soit on isole ceux qui ont besoin de parler, soit au contraire, on isole ceux qui ont besoin d'être dans le... Ça dépend des lieux, ça, tout ça, on sait faire. On sait faire, mais on sait pas le faire savoir, peut-être.
Et pour ce qui est des multiples usages, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est que souvent les gens... qui nous parlait de cette question du calme, pointait le fait qu'il fallait qu'il y ait des locaux, justement pour que les animations peut-être un peu vives, les débats, n'empiètent pas sur la lecture silencieuse. C'était, est-ce que vous aurez les locaux pour ça ? Est-ce qu'il y aura un espace pour... moi, il y a une lycéenne qui disait, voilà, moi, pour moi, la bibliothèque, c'est un lieu de silence, je viens pour faire mes études. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai eu la mère juste après, donc j'ai eu un peu la scène, la confrontation... Et la mère, elle, était ouverte, au contraire, non usagère d'ailleurs, et était plutôt ouverte à des usages différents, à des rencontres, etc. Et sa fille lui a dit à un moment, mais qu'est-ce que tu connais aux bibliothèques? Tu ne les fréquentes pas, et puis ça va faire du bruit, je ne vais pas pouvoir travailler, c'est pas... Et d'autres, très souvent, c'était ça, c'était, si vous faites d'autres usages, est-ce qu'il y aura les locaux pour ça? Et d'autres aussi, il y avait un autre aspect, un usager m'a dit, les animations, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps, et pas tout le temps les mêmes. Parce qu'il y a aussi une question qu'on a posée souvent, notamment sur la vie citoyenne, on vous a dit, ça n'a pas eu un grand succès, c'est qu'on leur disait, voilà, ils nous disaient, y a des associations qui font ça, c'est leur travail, et on les relançait en leur disant, mais ces associations, est-ce qu'elles ne pourraient pas venir à la bibliothèque proposer des actions, ou au moins se faire connaître? Et un usager m'a répondu, le problème, c'est que si vous le faites tout le temps, les gens vont se dire, cette bibliothèque-là, c'est celle de telle association, en fait. C'est plus ma bibliothèque. J'ai plus vraiment envie d'y aller, puisque c'est là où on fait des animations sur gérer son budget, par exemple, c'est un exemple qu'on leur donnait, ou oui. Aider socialement les gens. Et il y avait cette idée que, en fait, à chaque fois, c'était ça. C'était d'accord pour qu'il y ait d'autres usages, mais il faut qu'il y ait les locaux, il faut que chacun, qu'il y ait une bonne coexistence, que vous disiez, en fait. Ah oui, ça oui, mais ça, justement, ils insistaient. Non, mais ça, ils insistaient beaucoup là-dessus aussi.
Bah, ça pourrait.
Moi, je voulais prendre la parole pour répondre, en fait, aux collègues de Mediadis qui disaient, mais je comprends que des non-usagers ne sachent pas toutes les facettes d'une bibliothèque, mais par contre, les usagers, c'est étonnant. Moi, je travaille dans une grande bibliothèque à Strasbourg, et ce qu'on remarque, c'est que... on a, peut-être pas la plupart, mais sans doute si, la plupart des usagers viennent pour un usage de la bibliothèque et ne s'intéressent pas au reste ou même ignorent complètement les autres usages qu'il peut y avoir. Donc il y a ceux qui viennent effectivement pour les postes internet, il y a ceux qui vont venir pour regarder un film sur place ou regarder une chaîne télé dans leur langue par exemple. Il y a ceux qui vont venir prendre des documents et qui n'ont jamais même repéré qu'il y avait des postes d'écoute ou des postes de visionnage de films. Et il y a enfin les lycéens et les étudiants qui utilisent tous les espaces disponibles pour venir travailler dans le calme. Donc c'est vrai qu'on a une bibliothèque sur 6 étages qui permet donc d'avoir des endroits où il y a beaucoup de bruit, il y a une cafétéria, etc. Et d'autres endroits où chacun peut trouver ce qui l'intéresse. Mais si on interrogeait, ce qu'on n'a pas fait, les gens qui viennent à la bibliothèque, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui ignorent une grande partie de ce qu'on leur propose à la bibliothèque. Ils ont fait en fait leur petit, on parlait de cocon, c'est une grande bibliothèque qui propose pas mal de choses, mais eux se sont reconstitués en fait un petit espace qui leur convient.
Eh ben, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que je me souviens d'un usager qui empruntait des CD, des DVD, et on lui a posé la question, qu'est-ce que vous avez comme d'autres attentes? Et il m'a regardé avec des yeux ronds, il m'a fait, des CD, des DVD, quoi d'autre? Et je pense que c'est assez juste, en fait, oui.
On a parlé de communication, et je crois qu'on met le doigt sur quelque chose de très important, et le précédent atelier le faisait aussi. C'est aussi de pédagogie dont on aurait sans doute besoin. Si on avait, je ne sais pas si vous avez assisté à l'atelier précédent, les OU, la 27e région, si on avait tendu un micro avant de faire toute cette pratique d'immersion et de démocratie participative autour de la bibliothèque avec les habitants de les OU, je suis presque certain que leurs attentes auraient été relativement sèches et traditionnalistes. Et que c'est ce qui vient en premier, parce qu'on conserve, je vais vous donner les résultats d'une autre enquête qui vient d'avoir lieu, je pense qu'en France, on conserve beaucoup cette image très traditionnaliste des bibliothèques, ce qui n'est pas que quelque chose de négatif. Je pense qu'il y a aussi du bon à prendre dans la vision traditionnelle et très livresque de la bibliothèque. Mais ça sous-entend effectivement que, et c'est toutes les limites d'une enquête exploratoire comme ça, par entretien très très court, hein, style micro-trottoir, hein, même si on a une consigne de départ qui est un peu provocatrice, et les matériaux ne sont pas très riches. Il faudrait passer ensuite effectivement à quelque chose de beaucoup plus long, voire longitudinale, où on suivrait les gens, où on les aiderait à co-construire une offre et les attentes. Moi, je pense aussi que ça peut se co-construire et qu'il peut y avoir du participatif. L'enquête dont je vous parle, une minute, Annie Dourlan, justement, dans le précédent atelier, en faisait le compte-rendu. Elle sera rendue publique à l'automne prochain. C'est assez rare, c'est une enquête pan-européenne qui a été réalisée par TNS Sofres à la demande de la fondation Bill et Melinda Gates, donc avec une force de frappe considérable. 17 pays enquêtés, 17 000 personnes interrogées sur leur rapport aux bibliothèques. La France sort pas si mal dans la moyenne européenne en termes de taux de fréquentation, très nettement devant l'Allemagne. On est au-dessus de la moyenne européenne à 26%, la moyenne européenne étant à 23% et l'Allemagne étant à 16%. Vous voyez, donc communication, oui, mais dans les chiffres. Et sur les questions d'image, sur l'affirmation, les bibliothèques publiques, par exemple, sont conviviales et accueillantes. La moyenne de l'Union européenne, c'est 58%. En France, c'est 44% des personnes interrogées qui déclarent qu'elles sont conviviales et accueillantes. Et pour finir, les bibliothèques publiques disposent de personnel hautement qualifié. La moyenne européenne, c'est 43% des personnes qui pensent que les bibliothèques publiques disposent de personnel hautement qualifié, et c'est 25% en France. Voilà.
Pour rejoindre, je voulais juste intervenir pour abonder dans votre sens, parce que nous, à Saint-Nazaire, on a fait une enquête de satisfaction, et effectivement, on se rend compte que dans le public, enfin une enquête de satisfaction qui a porté à la fois sur les usagers, les non-usagers, et les ex-usagers, on va dire. Et on se rend compte, effectivement, que les attentes ne vont pas dans le sens d'une révolution d'un modèle de la bibliothèque. Ça reste très, très, assez conventionnel, assez classique. Les usagers se prononcent principalement sur la disponibilité des nouveautés, sur la disponibilité des documents, de ce qui paraît, etc. Mais ce n'est pas révolutionnaire. Et en fait, moi, la réaction que j'ai par rapport à l'étude que vous présentez, c'est que je me demande dans quelle mesure, justement, l'image de la bibliothèque ne conditionne pas des usages. C'est-à-dire que, en fait, la bibliothèque est prescriptrice d'usage. C'est une école, en fait. Elle administre un mode d'emploi, en fait. Et je pense que c'est le sentiment que j'ai, moi, en écoutant vos retours. C'est-à-dire que c'est un peu une école des usages, c'est-à-dire que on est peut-être victime de ce modèle classique qui nous a un petit peu conditionné à n'attendre que cela d'une bibliothèque. Et effectivement, je pense que l'amorce que peut créer une campagne de communication ou des effets pédagogiques sur des actions un petit peu innovantes ou démonstratives pour des choses innovantes, c'est ce rôle-là. Ça peut montrer que la bibliothèque ouvre la porte à d'autres possibilités méconnues. Mais moi, je pense qu'il y a ce facteur très normatif, en fait, de l'image. C'est-à-dire que quand les usagers, effectivement, et vous le disiez d'ailleurs dans vos conclusions, les usagers ne peuvent pas avoir d'attente révolutionnaire par rapport à quelque chose qu'ils connaissent peu ou mal. Ou par rapport à quelque chose dont ils ont une image qui est extrêmement classique ou limitée. Donc l'image, effectivement, est motrice de nouveautés, et je pense que c'est effectivement là-dessus qu'il faut agir.
Pour aller un petit peu dans le même sens et en parlant de communication, moi je suis très très circonspect sur l'aspect campagne de communication. Je pense que si on se resitue dans le thème qui est quelles sont les attentes sociales des usagers ou des non-usagers des bibliothèques, on a surtout besoin, je pense, de relais d'information, de prescripteurs qui ne sont pas forcément des prescripteurs de bibliothèques, et surtout de partenariats. Je m'explique. Si, par exemple, on se propose de développer un fonds et des services liés à ce fonds relatifs à l'emploi, à la formation, à l'insertion, etc., on va certainement avoir besoin de relais auprès des missions locales, de Pôle emploi, des centres sociaux, des maisons de quartier, etc., etc. Donc, je pense que la communication, oui, mais il faut s'interroger sur quelle nature de communication et sur l'impact que les différentes méthodes de communication qu'on utilise peuvent avoir sur le public qu'on cible. En l'occurrence, je pense qu'il vaut mieux passer, disons, par une action plus capillaire de relais, de prescripteurs, que d'utiliser la grosse matraque de la communication traditionnelle, institutionnelle, que ce soit par les journaux municipaux, que ce soit par les panneaux de co, etc. J'y crois, mais avec beaucoup de réticence, et je pense qu'on a surtout besoin de travailler nos relations avec les autres partenaires sociaux. En fait, la bibliothèque, elle a un rôle social, pour autant qu'elle ne se considère pas comme à part dans la société et qu'elle soit véritablement partenaire des autres acteurs sociaux.
Alors, pour aller dans votre sens, c'est vrai que ça me fait revenir à l'esprit un exemple qui est cité par Johan Bourion dans son mémoire sur l'insertion professionnelle et les bibliothèques, où il cite l'exemple de Bordeaux. Les horaires d'ouverture des agences de Pôle emploi et des bibliothèques publiques sont généralement complémentaires. L'exemple bordelais est intéressant. La bibliothèque Mériadec, située dans un quartier à vocation administrative, ouvre 53 heures par semaine, 6 jours sur 7, jusqu'à 19 heures, fermée le jeudi matin. L'agence de Pôle emploi du quartier, du même quartier, la principale de l'agglo, est ouverte, elle, 34 heures par semaine, 5 jours sur 7, mais dès 8h30 le matin jusqu'à 16h30 le soir et fermé le jeudi après-midi. Donc déjà, en l'état, il y a une complémentarité et donc ça rejoint ce que vous dites sur le... Mais nous, on est sortis un peu de... Donc la capillarité, ça c'est vrai que c'est un fondamental, on peut pas... Enfin, c'est vraiment une... On sera d'accord. Mais comme on a élargi, c'est vrai, enfin les attentes sociales ont vraiment élargi le propos. Il y a des grandes campagnes de pub qui ont réussi à Rennes, par exemple, qui ont été faites par une agence de création et de communication, l'agence Puzzle, au mois de septembre, avec 4 visuels déclinés mais cohérents sur les panneaux de co. Et ça a eu un impact sur la fréquentation et les inscriptions, tout public. Il y a eu par la suite, l'année d'après, c'était une campagne qui avait été menée en parallèle de la présentation du nouveau site web. Et l'année suivante, c'est un travail plus fin qui a été fait dans un quartier qui avait une bibliothèque qui était un peu en difficulté. Donc au lieu de la fermer, on l'a renforcée avec une campagne de pub, les bibliothèques et leurs commerçants. Où c'est les commerçants qui se mettaient en scène avec des livres dans leur boutique. Et ça fait l'objet d'une série de 9 affiches qui ont été diffusées sur le quartier, mais aussi dans toute la ville. Donc je pense qu'on peut... Il y a plein de gens intelligents dans les bibliothèques, oui, pour concilier tout ça, quoi.
Et moi bonjour, merci déjà pour votre atelier. Moi, j'avais juste une remarque à faire sur la conclusion que vous en avez tirée, à savoir la question de la communication. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je le vis au quotidien, là où je bosse, dans une grande ville où on a du mal à faire savoir ce qu'on fait. Mais nous, notre démarche dans la ville où je travaille, c'est pas tant de faire savoir ce qu'on fait, c'est pas seulement ça, c'est de bouger les champignons, donc les campinois, de les faire se battre pour que les médiathèques ressemblent à quelque chose. On essaie de leur donner un déclic pour qu'eux soient plutôt dans la revendication et non pas dans les attentes, simplement. Beaucoup moins passifs, mais presque voilà, revendicateurs, à bouger le maire pour qu'on fasse d'autres choses. Voilà. Ce que je veux dire, c'est pas seulement une question de communication, la question n'est pas seulement de faire savoir ce qu'on fait, mais aussi qu'on nous réclame des choses. Voilà, qu'on nous réclame des choses. Et ça, du coup, ça s'organise au niveau beaucoup plus global de la ville. C'est vraiment une démarche politique qui associe tous les services, pas seulement la culture, mais aussi la CAF, enfin le CCAS, enfin bref. Et voilà, pour essayer de rencontrer la population et de connaître ses besoins et de les transmettre au maire. Voilà, c'est beaucoup plus global que des questions bibliothécaires, en fait. Et c'est pas seulement de la communication. Je ne sais pas si j'étais très claire, parce qu'on est encore au tout début de notre projet à Champigny, mais c'est vrai que ça ne suffit pas seulement d'avoir des grands panneaux de co, parce que nous, on les a à Champigny, la communication est très bien faite, mais on n'a que 8% de la population qui vient nous voir. Quoi.
Combien ?
Donc, je pense que nous, on n'est pas du tout en accord avec ce dont ils ont besoin.
10% ? Quel est votre taux d'inscrits ? 8% vous disiez ?
Ça va rejoindre ce que disait précédemment la collègue, parce que moi j'ai la chance d'être dans une collectivité qui appuie cela.
mais il me semble qu'il faut sortir de l'autocentrisme des bibliothèques. Enfin, là, dans le débat, c'était très intéressant. Et je trouve que justement, ce qui se dit de la part des citoyens, c'est précisément ce qui anime quand même la profession. Jusqu'à maintenant, je suis moins étonnée que vous des débats. Je ferai moins la part des choses entre, d'un côté, ce qui s'affiche par les citoyens et puis ce que l'on réfléchit. Travailler sur la mixité des usages, la mixité des publics, sur l'architecture qui permet tout ça, faire de la communication. Je pense que ça fait un certain temps qu'on balaye ça. Maintenant, c'est effectivement la prise de position des pouvoirs publics qui affiche un programme public et des ambitions par rapport à ces services publics. Et il y a des réalités assez pragmatiques qui, à mon avis, seront utiles. Il ne faut pas forcément voir dans les restrictions budgétaires ou dans... Je pense qu'il y a toujours du positif à tirer des situations. Et quand on est appelé à mutualiser sur des espaces avec d'autres services publics, c'est aussi une bonne occasion de faire valoir nos compétences, nos aptitudes et la capacité qu'on a à aller vers les publics pour leur offrir des tas de choses qu'ils n'avaient pas prévu de rencontrer dans une bibliothèque, mais qu'ils croisent à l'occasion de différents usages du lieu. Quand on doit travailler sur la réforme du rythme scolaire avec la direction de l'éducation, c'est aussi une formidable ressource pour les bibliothèques d'affirmer leurs compétences dans les domaines du numérique, dans les domaines de l'animation, etc. Voilà, c'était juste pour finir à la fois sur une touche positive, pour espérer que les politiques publiques prennent aussi l'assaut de la lecture et favorisent son développement, et aussi dire que les bibliothécaires, ils ne sont pas tout seuls. Il y a effectivement des citoyens, mais il y a aussi des pouvoirs publics, et chacun doit prendre ses responsabilités sur cette tripartie-là.
Merci, c'est une bonne façon de conclure. C'est Saint-Herblain, c'est ça ? Voilà, merci Sonia. Encore une toute dernière, alors la dernière des
dernières. C'était juste pour savoir si au-delà, à la fin de votre enquête, vous aviez comparé vos résultats avec l'enquête qui vous a inspiré les questions, si ça avait été, fait.
Faute de temps, on n'a pas pu...
C'est congrès de l'ABF 2014, prochaine commande.